Les services pour les personnes âgées se caractérisent par des relations asymétriques, comme c'est le cas de tous les services. S'interroger en termes de vulnérabilité invite à penser cette asymétrie sous un double angle, celui de la vulnérabilité du destinataire et de la façon dont il entraîne une relation de dépendance vis-à-vis les pourvoyeurs, et celui de la vulnérabilité sociale des travailleuses du care et de la façon dont elle est un élément déterminant de la relation du service. Dans le cadre de cette communication, je vous propose d'examiner comment les rapports sociaux structurent la relation de service à partir d'une comparaison entre des différents services de personnes âgées, c'est-à-dire l'emploi direct, les EHPAD et une association de services à la personne. Donc, j'appuie sur les résultats d'une recherche sur les différentes formes de prise en charge des personnes âgées menées en Île-de-France. Dans ce cadre-là, 125 entretiens semi-directifs sont réalisés avec des employés du CARE par moi-même et le Nairata. Et l'enquête du terrain a montré que les employés du secteur sont dans la grande majorité des femmes et, comme vous allez voir aussi, des personnes racisées. Donc, je vais examiner deux thématiques qui sont vraiment récurrentes dans les entretiens avec les employés du secteur. La première, c'est la question de la servitude, de l'esclavage et du racisme. Et la deuxième, c'est le conflit avec les proches, et la famille du bénéficiaire. Donc, pour moi, il s'agit de deux questions que vraiment dévoilent la complexité des rapports de pouvoir dans les relations de services du CARE, tout en relevant aussi l'expérience et les stratégies de résistance des employés. Donc, la relation de l'aide, bien qu'elle manifeste de façon différente dans les entretiens, tisse les rapports positifs des travailleuses du CARE au travail. Aux antipodes, la question de la servitude, d'esclavage ou du racisme surgit là où la relation de l'aide se rend opaque. Dans les entretiens, souvent ces questions se posent d'une manière brusque et inattendue pour l'enquêtrice, moi. La voix s'élève et les mots choisis deviennent durs, indignés. Les employés dénoncent ce qui est vécu comme effacement des efforts et des acquis personnels, comme une violence qui les met toujours dans la même place, celle de la dominée. Leur indignation en même temps les place comme des sujets qui revendiquent, qui résistent. Et ce n'est pas toujours le cas. Certains employés reviennent sur des comportements abusifs pour conclure qu'ils n'ont pas le choix. Il s'agit de personnes avec des itinéraires très précarisés pour lesquels la perte de leur emploi est une menace insupportable. Donc, en général, dans les EHPAD, les employés ne parlent pas pour l'esclavage et la servitude, et c'est parce que l'organisation du travail limite considérablement les marges du bénéficiaire à imposer une relation servicielle. Comme le note Nakano Glenn, les rapports avec les superviseurs et les clients sont hiérarchiques, mais ils sont situés au sein d'une structure impersonnelle gouvernée par des obligations et des limitations contractuelles plus explicites. Par contre, dans l'aide à domicile, les employés font systématiquement le lien entre les demandes abusives des bénéficiaires et la condition de la servitude ou de l'esclavage. Donc, pourquoi les employés utilisent les notions de la servitude et de l'esclavage? D'une part, la référence de la servitude révèle de l'antirécit, si vous voulez, de la domestique, en pointant surtout sur les rapports des genres et de la classe. La référence à l'esclavage implique une conscience aiguë des rapports sociaux de race. Elle fait partie d'une mémoire collective et d'un antirécit qui dénonce les rapports de domination des Blancs aux Noirs dans le passé colonialiste de la France. Par exemple, Stéphanie, 31 ans, elle a un DAVS, elle nous dit « Mais il y avait des personnes qui nous prenaient comme des bonniches, des services de l'ancien temps. Moi, je n'ai pas connu l'esclavage, mais bon. » C'était comme si. Je ne l'ai pas connu, mais c'était comme si. Les recours, si vous voulez, au récit, à l'utilisation de la notion de la servitude et de l'esclavage, permet d'incorporer l'expérience personnelle et dégradante à un récit publiquement reconnu. Selon Khadija Roula, c'est exactement cette articulation qui permet le sujet à échapper de la position de la victime et lui redonne d'autorespect et de la reconnaissance. Dans ces récits sur l'esclavage et la servitude, nous pouvons aussi voir quelque chose d'autre que les simples dénonciations des relations servicielles. Le récit des employés français est pareil à celui de leurs collègues d'Afrique du Sud. Malgré l'évolution vraiment progressiste concernant le cadre législatif du travail du Caire après l'instauration de la démocratie, ces dernières censurent. Nous sommes toujours des esclaves, rien n'a changé. Donc, c'est parce que leurs aspirations pour un vrai changement après les tombées d'Apartheid sont démenties. En France, le processus de la professionnalisation et l'amélioration du cadre législatif concernant le travail du Caire ne sont pas suffisantes pour changer la position subordonnée des employés racisés dans la société française. Comme leurs collègues alors de Sud-Afrique, elles révèlent aussi une injustice sociale profonde. Si la démocratie française promet d'égalité, solidarité, fraternité, elles, comme leurs ascendants, ne l'ont pas connue. Donc, comment elles agissent face à la situation qu'elles dénoncent comme servitude ou esclavage? D'abord, elles revendiquent la reconnaissance de la relation de l'aide et elles peuvent mettre en avant, surtout dans l'association des services à la personne, une identité professionnelle légitimée par leur qualification. Par contre, particulièrement les employés qui mobilisent la notion d'esclavage considèrent que ce type de stratégies sont insuffisantes. Donc, elle essaye de trouver des boulots dans les hôpitaux et les EHPAD où le cadre d'exercice réglementé et en personnel peut offrir un type de refuge. Les comportements racistes sont aussi omniprésents dans l'ensemble du secteur, tant de la part du personnel blanc, si vous voulez, des organisations, que par les bénéficiaires. Dans ce contexte, il y a une vraie difficulté de créer des défenses collectives face à ce type de comportement. Les stratégies des employés, alors, sont multiples et dépendent en partie des types de services. Ainsi, dans l'aide à domicile, la première discrimination possible dépend du choix d'employés à embaucher. Dans le cadre de notre enquête, les employés en emploi direct n'ont pas dénoncé des cas où le service était refusé pour des raisons délibérément racistes. Nous faisons l'hypothèse que c'est parce que les raisons informelles des employés jouent souvent un rôle important dans la mise en contact avec les futurs employeurs. Par contre, plusieurs employés de l'association des services à la personne ont fait l'expérience de comportements racistes lors de leur première mise en contact avec les bénéficiaires. Dans les entretiens, les refus du service, les claques de la porte, comme elles disent, reviennent comme une pratique courante qu'elles essaient de contourner en demandant à la direction de l'association d'éviter les envoyer à telle personne. Dès qu'on est en service, les attaques verbales existent, mais elles ne renvoient pas à un refus total de la prestation. Les employés s'efforcent de contourner ce type de comportement par la construction d'une relation personnelle. Selon Nali, ce type de travail émotionnel doit être vu comme une culture du travail que les employés mettent en œuvre afin de négocier les conditions de leur travail et gagner une certaine autonomie. En investissant sur la relation personnelle, elle renforce la dépendance des bénéficiaires vis-à-vis à elle, changeant progressivement les rapports de pouvoir dans les services. Dans nos entretiens, les employés utilisent l'argument de la nécessité d'aide et du besoin d'elle comme pourvoyeuse afin de donner une première réponse aux attaques racistes. Par exemple, Laura, 55 ans, qu'elle travaille en emploi direct, elle nous dit « Non, elle dit que je ne parle pas du tout français. » Au début, c'était un vrai problème avec elle, parce qu'elle m'attaquinait, elle ne me parlait pas, elle m'attaquinait de cette affaire. « Vous êtes des vrais sauvages, la langue que vous parlez. » J'ai dit « Oui, mais malheureusement, je suis une sauvage qui vient vous garder. » Quand la relation personnelle est établie, les attaques verbales s'effacent. Cela ne veut pas dire que les idées racistes se disparaissent aussi, mais l'employé gagne sa place comme une personne avec laquelle on peut avoir une relation de réciprocité. D'ailleurs, les employés elles-mêmes mobilisent leurs défauts, si vous voulez, stéréotypés, liés avec leur altérité pour renforcer cette relation personnelle. Par exemple, ici, Laura, elle va demander à cette dame-là lui écrire des lettres en français parce que, voilà, elle est une vraie sauvage, et la dame bourgeoise, elle peut écrire de bonnes lettres pour elle. Et la dame, elle est contente. Dans les EHPAD, il semble que ce type de stratégie est moins probable à déployer. Les bénéficiaires perdent les grands atouts comme clients, la possibilité de choix. De la même manière, les employés ne peuvent non plus éviter les services, comme c'est le cas de l'aide à domicile. En plus, l'organisation et la division du travail dans les établissements ne sont pas propices à la construction d'une relation personnelle. Expliquer le comportement raciste par le vieillissement est une pratique courante, courante de la part des organisations de l'ensemble du secteur pour ne pas pénaliser leurs clients. Cependant, faute de marge de déployer d'autres stratégies de défense face à ces comportements, ce type d'argument semble de prendre une place particulière dans les entretiens avec les employés des EHPAD. Par exemple, Nadine, qu'elle travaille comme aide-soignante dans les EHPAD, elle nous dit « C'est un travail pénible déjà. Parfois, il y a d'agressivité, que ce soit verbale ou psychologique. Par exemple, il y en a qui nous insultent. Parfois, ils nous griffent. Qu'est-ce qu'ils disent ? Parfois, ils disent « Salopard, ne me touche pas. Retournez dans votre angle. » Vous voyez des trucs comme ça. Ça, c'est du racisme, non ? Oui, mais on comprend qu'ils sont des personnes âgées qui peut-être ont perdu la tête. Mais ça nous blesse quand même. Mais même si on ne les manifeste pas, ça nous reste là, dedans. Elle fait aussi le... Donc, dans les EHPAD, il semble que ce type de stratégie, investir sur le personnel, c'est moins probable de déployer. Ah, pardon. Je suis perdue. La dépendance ici, alors, ne se mobilise pas pour établir les relations de pouvoir en faveur d'employés, mais par contre pour lui faire accepter sa position en tant que dominé. Si l'expérience de cette souffrance est partagée, elle ne peut pas être socialisée comme telle, faute de stratégies communes de défense et de résistance. Elle devient une souffrance difficile à exprimer dans le quotidien et qui tombe souvent au silence. Dans ce sens, elle est perçue comme une pénibilité du travail que chacun doit gérer individuellement. Les références fréquentes à une blessure nous font penser à la difficulté de la personne à être rétablie en tant que sujet. Donc, je continue sur les relations avec les proches. Une des particularités des services du care alors aux personnes âgées est que la relation du service ne prend pas toujours une forme duelle ou triangulaire. Il y a aussi un acteur, si vous voulez, joker, c'est la famille qui essaye de protéger les pères ou mères vulnérables. Elle entre de manière différente dans la relation du service. Ici, je vais prêter mon attention dans le cas d'affrontement des employés avec les proches des personnes âgées, parce que si la vulnérabilité joue un rôle central dans la manière dont la relation entre bénéficiaires et employés se développe, elle n'a pas la même place dans les relations entre employés et les proches. Donc, la question de la non-reconnaissance prend une place centrale dans la façon dont les employés reviennent sur les affrontements avec les proches. Elle couvre des enjeux matériels et symboliques. Dans l'emploi direct, qui est la partie la moins régularisée du secteur, on remarque que les enjeux matériels et symboliques s'entremêlent d'une manière plus visible. Mara, qui travaille en emploi direct et mandataire, elle nous dit « Les personnes âgées sont correctes, mais ce sont les enfants, la famille qui ne sont pas correctes. Ils ne sont pas corrects. Et c'est souvent quand ce sont des Français. Ils ne veulent pas de nous, les immigrés. Ils nous prennent souvent pour des profiteurs. Pourtant, ce sont eux qui profitent de la société. La personne âgée appuie toujours sur son auxiliaire de vie, sur son assistante de vie. Parce que la personne âgée se dit quoi ? Je compte que sur elle. Quand ils vont vous foutre à la porte, ils oublient tout ce que vous avez fait pour leur maman. Ils oublient tout. Moi, je viens de finir avec une personne âgée. C'est sa fille qui gérait tout. J'ai travaillé, c'était 11 heures de l'air. Moi, avec l'expérience que j'ai avec les personnes âgées, mais elle me payait 11 heures l'air. C'était 11 heures l'air. Elle me faisait travailler. Au départ, j'ai travaillé de 9 heures et je finissais à 8 heures. Mais elle calculait 4 heures. Pourtant, j'étais chez la personne âgée de 9 heures. Elle dit, bon, déjà, la carte orange n'était pas remboursée. Elle ne donnait pas la moitié de la carte orange. En général, on peut distinguer deux axes d'affrontement avec les proches dans les récits des employés les plus vulnérables de l'emploi direct. Les premières se déploient entre la confirmation des statuts économiques et sociaux de la famille et la précarité que connaît l'employé dans et hors le travail. L'injustice sociale est décrite d'une manière vivante. La famille a tous les moyens, voire plus que cela, mais il reste indifférent devant les besoins de l'employé. L'accent sur les statuts économiques et sociaux de la famille explique aussi l'impuissance d'employés à négocier et refuser ce qu'ils considèrent comme abus du service. Le deuxième axe se développe sur l'opposition de la relation authentique de l'employé avec le bénéficiaire, contre une relation superflue, voire inauthentique, de proche avec lui. Cette opposition devient encore plus forte par l'inversion paradoxale des motivations de la relation avec le bénéficiaire. L'employé qui offre un service marchand, elle se défend de mettre en priorité le bien du bénéficiaire et pas l'argent. Par contre, la famille qui se place par définition dans le sens non marchand ne cherche que de tirer profit. Selon Skeggs, l'affirmation des soucis authentiques pour les autres est une preuve de sens de responsabilité que l'ont les employés de classe populaire. Elle remarque que, ce faisant, elle se met en position d'inverser les divisions de classe et de revendiquer une supériorité morale sur les femmes de classe moyenne et supérieure. Nous faisons l'hypothèse que si on examine ensemble les deux axes de non-reconnaissance, l'affirmation des soucis authentiques puisse être interprétée d'une manière autre qu'une seule revendication de supériorité morale. Nous avons vu que pour les employés, l'investissement sur la relation personnelle fait partie d'une culture du travail afin de négocier les conditions de travail dans un cadre d'exercice non réglementé. Cette stratégie perd sa force quand l'interlocuteur n'est pas directement le bénéficiaire, mais ses proches. Par contre, il peut toujours être mobilisé comme témoignage de bon travail. D'ailleurs, faute d'autres critères institutionnels valables, il semble le seul moyen que dispose l'employé pour prouver la qualité de son travail. Dans ce cadre, la relation authentique comme témoignage de bon travail se mobilise par l'employé pour argumenter qu'elle vaut un meilleur salaire et de meilleures conditions du travail. La relation non authentique des proches avec les bénéficiaires et leur souci de profit croise aussi une double injustice vis-à-vis l'employé. Premièrement, la non-reconnaissance de son bon travail et deuxièmement, les non-rétributions pour lui. Ce n'est pas par hasard que le bénéficiaire, malgré des comportements abusifs dans certains cas, il reste hors la scène de dénonciation. Pour l'employé, le seul témoignage de bon travail qu'il dispose afin de faire valoir ses revendications, c'est la relation avec lui. L'enjeu d'enfraudement avec les proches ne concerne pas toujours directement les salaires ou les conditions du travail. Néanmoins, la question de la non-reconnaissance vient souvent pour relever un grand éventail de situations où les symboliques jouent son rôle dans le placement de l'employé à une position de subordonné. Dans les entretiens, les employés reviennent sur plusieurs affrontements pour des choses qui, de la première vue, ils semblent triviaux. Par exemple, Lorenzo, emploi direct, nous dit « parce qu'on a envie de prendre surtout la décision, on sait qu'est-ce qu'il mange. Il ne mange presque rien, alors pour le dessert, il adore les fruits sucrés. » Non, 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 pour dessert, il y a un éclair de chocolat. Il ne mange pas l'éclair de chocolat. Mais on ne commande pas là-bas, et bon, on essaie de faire. Les employés mettent l'accent sur le fait que leur connaissance sur les bénéficiaires, leur savoir-faire qu'ils ont acquis en cours du développement d'une relation personnelle ne sont pas reconnus ni valorisés comme tels. Du coup, leur autonomie dans le travail est mise en danger. La non-permission de se présenter à l'enterrement de la personne prend peut-être la forme la plus symbolique des cas de ces techniques de domination et de non-reconnaissance. Être en situation de professionnels qui revendiquent leur droit au deuil, ce n'est pas pourtant seulement l'aspect humain qui se révèle ici. La famille, en refusant la présence des employés à la cérémonie, refuse aussi de lui reconnaître d'autres identités que celui d'employé de service et par conséquent de l'accepter comme un semblable dans cet événement social. La réification d'employés semble ici atteindre le sommet. L'enjeu commun dans les affrontements des employés avec les bénéficiaires est la reconnaissance ou non du service comme une relation d'aide. Pour les employés, la reconnaissance de la relation de l'aide signifie une certaine réciprocité qui les place comme des interlocuteurs à part entière dans la relation du service. Par contre, son déni renvoie à leur réification et les rend à un individu socialement invisible. Donc, dans ce cadre, la vulnérabilité de la personne âgée joue un rôle important dans le sens qu'elle donne à leur travail et la façon dont elle la mobilise pour se repositionner dans les rapports de pouvoir du service. La comparaison entre les différentes branches du secteur a montré alors que les services les plus réglementés n'offrent pas toujours plus de protection à leurs employés vis-à-vis les relations servicielles et les comportements racistes. Je vous remercie.
Merci.